Et là, il y a la page 17, ne la manquez pas. Le titre de, c'est un article assez court, un papier assez court, qui s'appelle « À 100 contre 1 » et qui est une petite merveille. Et vous avez tout ce qui a été dit sur Pierre Bourdieu, il y a une dizaine d'années à peu près, par des gens éminents tels que Edwige Plenel, Alain Finkielkraut, Laurent Geoffrin, Françoise Giroud, Jean-Marc Sylvestre, notre Jean-Marc Sylvestre à nous, qui disait « il a fondé beaucoup de ses analyses sur des archaïsmes et des erreurs historiques ». Bernard-Henri Lévy a dit « Bourdieu, ce que les années 60 nous lègue de plus éculé ». Finkielkraut accuse Bourdieu de critique totalitaire. Edwige Plenel condamne sa, je cite, « vision schématique de l'univers médiatique », etc., etc. C'est un vrai bonheur pour Philippe Solers. Bourdieu, c'est le stalinien typique, etc. Et alors, l'auteur de l'article, qui est Pierre Rimbert, se demande si tous ces gens-là vont se glisser dans le cœur d'hommage à Bourdieu, qui effectivement est en train de chanter, 10 ans après, les louanges à la mémoire de Bourdieu. On a avec nous Franck Poupeau, qui a dirigé, coédité, voilà, c'est plus modeste, un gros bouquin sur l'État. C'est des cours du Collège de France pendant 3 ans. Bourdieu a donné ses cours sur le thème de l'État et tout ce qui conduit à l'État et tout ce qui sort de l'État. Mais c'est transcrit de cours parlés. Et donc, ça donne souvent une fluidité, pas toujours, hein, à la lecture. Et puis des digressions par moments, ce qui rend le bouquin... C'est pas facile de le lire d'un seul coup, d'un bout à l'autre, mais par petites tranches, c'est un vrai bonheur.
Oui, bah c'est un boulot éditorial pour essayer de restituer une image de Bourdieu qui a disparu justement derrière l'avalanche de ses critiques, notamment dans les années 90, qui ont été perpétuées aussi un peu après sa disparition, et qui consistait à faire de Bourdieu une sorte de penseur sectaire avec sa petite secte autour et un système complètement fermé, voilà. Ce qui correspondait vraiment pas à l'image que la plupart des gens qui ont bossé avec lui pouvaient avoir, y compris même des gens qui sont éloignés par la suite, c'est-à-dire, on le voit bien dans le cours, c'est un principe plutôt d'ouverture, j'allais dire presque d'émancipation, quand on va à ces cours-là. Voilà, donc ça restitue une parole vivante, ça hésite, ça tâtonne, c'est ça qui est aussi intéressant. Il s'affronte à un problème qui le poursuivait depuis quand même pas mal d'années. Hein. Il y avait eu Homo Academicus, où il abordait déjà le problème du champ du pouvoir. Il y avait eu La noblesse d'État, hein, qui était paru en pleine commémoration de la Révolution française, qui cumulait 20, 25 ans de travaux sur les élites, hein, de la République. Et donc ça, c'était une tentative encore de penser un peu plus que l'avaient fait certains autres penseurs très prestigieux comme Marx, Weber ou Norbert Elias, et d'essayer de construire un principe d'intelligibilité de ce que c'est que ce pouvoir d'État, cette pensée d'État qui nous envahit et qui définit un peu nos cadres de pensée. Voilà, c'est un peu aussi la perspective de cette édition-là, de restituer à la fois la parole vivante et la réalité d'un travail de recherche, d'enquête. En même temps, il parle de ses enquêtes au même moment sur le logement, voilà, et qui l'amène à se rendre compte au même moment aussi, il fait l'enquête sur la misère du monde, tous les bouleversements qui affectent l'état social français. Hein, et c'est un peu avant 95, et il voit déjà ça à l'œuvre, hein, la lutte des ministères dépensiers contre les ministères financiers, la lutte de la main droite et de la main gauche de l'État, bon, ça c'est des thèmes connus. Voilà, on voit tout ça émerger petit à petit, c'est une sorte à la fois d'immersion dans un univers d'érudition assez impressionnant et en même temps de réflexion sur l'actualité la plus brûlante. Qu'est-ce que c'est que l'État et l'État en France aujourd'hui? Voilà. Et qu'est-ce qui est en train de se passer à cet État qui a eu autant de mal à se construire, qui pour partie est oppresseur et qui en même temps est aussi un État social? Et il y a cette contradiction sans arrêt qu'il essaie de penser.
Et là pour dans ce numéro du Diplo, vous avez choisi, enfin le Diplo a choisi un extrait sur l'opinion publique, la façon dont se construit l'opinion publique.
Ouais, alors c'est un extrait qui est bien choisi parce qu'il renvoie un petit peu à un des principes de l'analyse de Bourdieu, qui est de dire que l'État, c'est un ensemble de catégories de pensée, hein, qui sont au fond de nous et que l'État construit et qu'il va élaborer tout en élaborant des institutions en parallèle. À savoir, c'est la construction d'un ensemble de principes de légitimité, de légitimation des pouvoirs en place. Et c'est pas seulement un instrument ou d'oppression ou un instrument de consensus. Voilà. Et donc, c'est toute la théorie qu'il élabore de l'État comme monopole de la violence physique et symbolique légitime. On parlait tout à l'heure de l'américanité. Il y a un très très beau passage qui est vers la page 228. Hein, il reprend les analyses de l'Englishness. Hein, c'est quoi? C'est dire que l'État, c'est du conformisme non seulement moral, c'est du conformisme logique. c'est cet ensemble de catégories de pensée qui sont tellement naturelles qu'elles vont de soi et qui font qu'on se sent...